vos 40
minutes. Merci, monsieur Jean-Charles Chabanne. Bonjour à tous. Alors, cette communication intitulée « Ce que veut dire écrire au CP, performance des élèves, type de tâche et effet sur les progrès des élèves » réunit des chercheurs et des praticiens issus de différentes disciplines, linguistes, didacticiens de français, psychologues. Et si nous avons choisi de nommer ces différentes disciplines, comme Roland Goigou l'a fait ce matin, c'est que c'est très important pour nous d'avoir travaillé ensemble autour des tâches et des pratiques d'écriture. Alors, nous cherchons nos questions principales de recherche sont les suivantes. Nous cherchons à préciser la relation entre lecture et écriture en cherchant à répondre à 4 principales questions. Quelle pratique d'écriture au CP ? Quel type d'interaction entre lecture et écriture ? Ou quel type de relation entre lecture et écriture ? Y a-t-il des effets des pratiques d'écriture sur l'apprentissage de la lecture ? Y a-t-il des pratiques qui font plus progresser les élèves ? Et si ces pratiques sont avérées, quel type de tâches, écrire sur la dictée, copier, calligraphier, provoquent des effets sur les apprentissages ? Quand nous avions commencé à travailler, il y a de cela longtemps, 3 ans, nous avions deux hypothèses fortes, deux hypothèses majeures. La première hypothèse concernait la quantité et la variété des tâches d'écriture. Nous pensions que faire écrire régulièrement dès le début du CP et tout au long de l'année, à partir de tâches variées, favorisait les apprentissages du lire-écrire. Notre seconde hypothèse concernait la production autonome d'écrit. Pour la définition de production autonome d'écrit, je vous renvoie aux exposés de ce matin. C'est-à-dire, et je reviens sur celle-ci, que la production de phrases, de textes, dès le CP, en complément des activités de graphie, de copie et de dictée, influençait de manière positive les apprentissages de lire-écrire. Voici comment va se dérouler notre intervention. Dans une première partie de cette intervention, nous allons vous parler des performances des élèves dans le domaine de l'écriture. Ensuite, dans une seconde partie, nous vous présenterons les tâches d'écriture proposées aux élèves et leurs effets sur les progrès des élèves. Ici, je laisse la parole à Catherine.
Donc, 2 mots des performances des élèves dans le domaine de l'écriture, dont on a finalement peu parlé ce matin. Voici l'unique épreuve d'écriture que nous avons proposée en septembre. Donc on a proposé aux élèves d'écrire leur prénom, puis 3 noms désignant des animaux. Donc vous reconnaissez lapin, rat et éléphant. Donc 3 mots plus une phrase, Tom joue avec le rat. Donc vous avez ici sous les yeux une très bonne production de début de CP. On observe en écriture, comme dans les autres épreuves, une grande hétérogénéité des scores des élèves. Dans une des analyses, on a cherché à savoir si le score en écriture était corrélé à certaines caractéristiques socio-démographiques des élèves, telles que le genre, l'âge, la langue, parler à la maison, le milieu social. Et effectivement, dès le CP, dès le début du CP, toutes ces caractéristiques sont corrélées au score en écriture. Donc le genre, les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons, mais l'influence est relativement modérée. L'âge a aussi une influence. Les enfants qui sont en retard au CP, il y en a peu, mais il y en a quand même, obtiennent de moins bons résultats que les élèves qui sont à l'heure et nés en fin d'année. La langue parlée à la maison a aussi son influence. Les élèves qui parlent français à la maison, français seulement, ont de meilleurs résultats que les élèves qui parlent français plus une autre langue. Mais la caractéristique qui semble jouer le plus sur les résultats en écriture est le milieu social. Plus la profession et la catégorie sociale des parents est élevée, et meilleurs sont les résultats. Nous allons nous concentrer ici sur les résultats de l'épreuve que je viens de vous présenter, les 3 mots et la phrase, en fonction de la PCS des parents. Alors voici ce que ça donne si on reprend la classification d'Emilia Ferrero. Donc chaque colonne indique un pourcentage d'élèves situé en fonction de leur conceptualisation du système d'écriture. En jaune, vous avez ceux qui n'ont pas compris le lien entre les signes de l'écrit et les sons de l'oral, les phonèmes, hein, ce qu'Emilia Ferrero appelait le stade présyllabique. À partir de la colonne rouge, ils ont franchi le mur du son, ils ont compris ce lien entre les signes de l'écrit et l'oral, mais leur écriture est encore approximative. En vert, vous avez le pourcentage d'élèves qui a une écriture alphabétique qui restitue à peu près la forme sonore. Et puis en bleu à droite, les élèves qui écrivent conformément à la norme. Donc vous ne les voyez pas, hein, il y en a vraiment très très peu en début de CP. Vous avez un bloc de colonnes par catégorie socio-démographique. Donc le bloc de gauche, les élèves issus de milieux favorisés, puis ceux de milieux intermédiaires, puis défavorisés, puis très défavorisés sur la droite. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder là ? Il y a la hauteur des colonnes qui sont en jaune. Si on regarde, si on compare les origines des élèves pour cette colonne-là, on voit qu'un élève sur deux dans les milieux défavorisés et très défavorisés n'a pas encore saisi ce lien entre signe de l'écrit et chaîne sonore à l'arrivée au CP, alors que dans les milieux favorisés, on en a un sur trois. L'autre chose qu'on peut remarquer, c'est le fait que les colonnes vertes, donc celles qui correspondent à une maîtrise du code alphabétique relativement avancé, sont moins hautes dans les milieux défavorisés et très défavorisés.
Alors, nous allons vous présenter maintenant une seconde série d'épreuves. Passer à l'épreuve de production d'écrit de fin de CP. L'épreuve de dictée, je crois que c'est...
La première, c'est une dictée.
C'est à toi, ça.
Bon, donc, on passe maintenant aux épreuves de juin. Donc, vous avez compris qu'il y a une seule épreuve d'écriture en septembre. Il y en a trois en juin. Donc, la dictée, on a repris les épreuves de septembre. On a ajouté une phrase pour tester les accords. Ensuite, une épreuve de copie différée avec retournement de la feuille. Puis une épreuve de production de texte où on proposait aux élèves de raconter l'histoire d'un petit chat à partir de quatre vignettes. Donc pour chaque élève, on dispose de ces trois sous-scores dont je vais vous reparler tout de suite après. Et on a constitué à partir de ces trois sous-scores un score global d'écriture dont vous entendrez parler aussi tout de suite après. Donc premier résultat concernant la dictée. Donc vous reconnaissez le graphique que je viens de commenter. Et voici les résultats pour le mois de juin. Donc vous voyez qu'au mois de juin, pour les mêmes élèves avec les mêmes caractéristiques, les colonnes jaunes et rouges ont comme fondu, alors que les élèves sont maintenant concentrés dans les colonnes vertes et bleues, donc qui correspondent respectivement à une maîtrise alphabétique qui permet une restitution de la chaîne sonore pour la colonne verte et une maîtrise orthographique pour la colonne bleue. Donc, il y a une espèce de mouvement vers la droite, en quelque sorte, qui est le signe de progrès très net. Bon, ce qu'on peut remarquer tout de même concernant l'appartenance au milieu social, c'est que les colonnes bleues sont moins élevées, moins hautes pour les milieux défavorisés et très défavorisés. Il y a moins d'élèves qui maîtrisent l'orthographe des trois mots et de la phrase à la fin de l'année. Et puis, il y a ces 9% d'élèves de milieux très défavorisés en rouge qui arrivent encore imparfaitement à restituer la chaîne sonore, alors qu'ils ne sont que 1% en milieu favorisé.
Alors, nous allons maintenant passer à l'épreuve de production d'écrit de fin de CP. Nous vous rappelons que cette épreuve n'a eu lieu qu'en juin. Elle était individuelle, sans aide, quatre vignettes affichées au tableau. Elle constitue les étapes du récit, c'est-à-dire l'histoire d'un chaton dont la mère est endormie, qui tombe dans l'escalier et que sa mère vient récupérer. Nous avons construit, pour analyser cette épreuve de production d'écrit, six analyseurs. Le premier analyseur concerne concerne la longueur du texte produit, c'est-à-dire le nombre de lettres tracées. Le second analyseur concerne la segmentation, c'est-à-dire la proportion de mots correctement séparés. Le troisième analyseur concerne la lisibilité, c'est-à-dire le texte, la capacité à déchiffrer un texte à haute voix sans effort. Le quatrième analyseur concerne le séparateur d'idées, la présence de marques graphiques ou textuelles. Le cinquième analyseur concerne la quantité d'informations prélevées à partir des images, des vignettes affichées. Et le sixième analyseur concerne les traces de narration, c'est-à-dire titres, formules d'ouverture, fermeture, temps du passé. On peut ajouter que sur ces analyseurs, les premiers analyseurs concernent des compétences en bonne voie d'acquisition en fin de CP et les derniers concernent des compétences textuelles et narratives plus complexes. Alors voici par exemple un texte écrit par un élève qui a obtenu un bon score parmi les 2500 élèves évalués à la fin du CP. Ce texte d'Ayoub apparaît comme tout à fait lisible. Il était une fois une famille chat qui dormait et un chaton se réveillait et il est parti et il tombe et il pleure, sa maman vient le chercher. Il est bien segmenté, il a une bonne longueur, il reconstitue les vignettes affichées au tableau en composant un récit. Et vous remarquez évidemment dans cette production d'élèves de fin de CP des marques de l'oral, les connecteurs et qui se répètent, mais aussi des marques déjà de l'écrit. Et on peut ajouter que ce texte a obtenu un bon score, 20, à l'épreuve effectivement de longueur de texte que nous allons, qui est un de nos analyseurs. Alors dans ce graphique, qui représente les résultats de l'ensemble des élèves concernant la longueur du texte produit, le texte d'Ayoub se situerait dans la colonne bleue qui est la plus à droite, c'est-à-dire a obtenu un score de 101 et plus, ce score correspondant au nombre de lettres tracées, car nous avons choisi effectivement d'évaluer la production d'écrit à propos de la longueur du texte à partir du nombre de lettres classées. Si l'on additionne les deux dernières colonnes, on s'aperçoit que, c'est-à-dire les colonnes bleues qui sont à gauche, on s'aperçoit que 65% des élèves sont capables d'écrire en 15 minutes un texte d'au moins 60 lettres à la fin du CP. On constate également que la moyenne des textes produits se situe entre 60 et 100 lettres. Et on constate enfin que très peu d'élèves n'écrivent rien, seulement 1%, et que 3% écrivent moins de 10 lettres et 10% entre 11 et 30 lettres. Donc la grande majorité des élèves est capable de produire un texte d'une longueur importante à la fin du CP, et en production d'écrit autonome. Un de nos autres analyseurs concernait les séparateurs. Là, on s'est aperçu que 65% des élèves utilisaient au moins une fois le point, 49% des élèves utilisaient au moins une fois la majuscule, 66% des élèves utilisaient au moins une fois un connecteur, et que 18% des élèves utilisaient au moins une fois l'alinéa, c'est-à-dire le retour à la ligne. Alors, nous avons là, ce matin, dans une des communications, il a été question d'un état des lieux, plus précisément par rapport aux études américaines, nord-américaines, ou à d'autres études. Ici, nous avons aussi la confirmation de travaux antérieurs à propos de la mise en place du système de ponctuation, des connecteurs et confirmation de travaux autour de l'entrée progressive des enfants en production de texte. Ensuite, un de nos autres analyseurs concernait effectivement la quantité d'informations. On s'est aperçu que 75% des élèves produisaient une information à propos de l'image 1, 82% des élèves produisaient une information à propos de l'image 2, 74% des élèves produisaient une information à propos de l'image 3 et que 65% des élèves produisaient une information à propos de l'image 4. Ce qui veut dire, si on regarde les résultats globaux, autre diapo, que 34% des élèves reprennent dans leur écrit des informations fournies par les images sans en ajouter d'autres, ce qui est déjà remarquable, 6% des élèves n'utilisent aucune information fournie par les images et que 20% des élèves, sur l'ensemble de nos élèves testés en fin de CP, parviennent à ajouter jusqu'à 3 informations supplémentaires. Nous arrivons donc là à un premier bilan et à une première étape de notre exposé. Le bilan des tests que nous avons construits dans le groupe écriture, ce sont des tests que nous avons construits effectivement pour cette recherche en tenant compte effectivement d'autres tests étalonnés, nous amène à conclure que à l'hétérogénéité et à la fragilité de certains élèves qui n'ont pas compris le lien entre écriture et chaîne sonore, qui se maintient au début du CP et qui se maintient tout au long du CP, et nous amène aussi à conclure que la plupart des élèves produisent un texte et ont déjà des compétences en production autonome d'écrit narratif. Et je vous renvoie à ce qui a été dit ce matin dans la communication de Sylvie Seb et dans d'autres communications. Tu passes là. Voilà. Il est donc possible et pertinent de s'intéresser à la production d'écrit au CP, et c'est vraiment un résultat qui nous a énormément surpris, alors que les instructions officielles n'insistent pas de façon très définie, en tout cas dans les principaux objectifs, sur cette production autonome d'écrit. Deuxième temps de notre exposé, nous allons mettre en lien les tâches d'écriture proposées aux élèves et leurs effets sur les progrès des élèves.
Donc on va... Excusez-moi, problème d'organisation. Tiens, je t'en donne ça. Donc on fait maintenant un zoom sur les tâches d'écriture, un des 5 groupes de tâches que vous avez déjà vus ce matin. Voilà comment on a découpé les tâches d'écriture qu'on a choisi d'observer, en notant à chaque fois quelles unités linguistiques elles concernaient. Par exemple, pour la calligraphie, vous avez le L qui correspond à lettre, S syllabe, M mot. Vous avez déjà vu ça ce matin, vous devez commencer à être familiarisé. On a observé la copie. Donc on a distingué la copie avec modèle de la copie après disparition du modèle. On a observé les tâches d'écriture sous la dictée, puis les tâches de production, que ce soit en production autonome, que ce soit en production à partir d'étiquettes, d'unités linguistiques pré-imprimées, à partir de en dictée à l'adulte ou en encodant soi-même. Et on a isolé les tâches de planification et de révision. Alors, on l'a vu ce matin, 32% du temps est consacré au lire. 32% du temps consacré au lire-écrire est employé pour l'écriture, soit 2h23 en moyenne par semaine. Donc, on va voir maintenant, avec ce secteur, la répartition moyenne des tâches d'écriture. Donc, quand les élèves écrivent, c'est à la copie qu'ils passent le plus de temps, 34% du temps, 47 minutes par semaine. Ensuite, c'est la production d'écrit, 29% du temps et 42 minutes. Puis la dictée, 16% du temps, 22 minutes hebdomadaires. Et enfin, la calligraphie, 16 minutes. Et planification-révision, 14 minutes. Donc, si on rassemble les tâches de production d'écrit et de planification-révision, on arrive à 56 minutes. Mais il faut aussi rassembler alors la calligraphie et la copie, et on arrive à 45 minutes. Donc les équilibres sont à peu près ceux-là. Alors, jusqu'à présent, on a évoqué des durées moyennes, mais en écriture comme en compréhension, les durées peuvent varier beaucoup d'une classe à l'autre. Et on peut observer ces variations tout d'abord avec la durée totale du temps consacré à l'écriture. Alors vous retrouvez le type de graphique que vous avez vu ce matin, donc ça devrait être plus facile. Les classes sont regroupées par groupe de 13 en déciles. Et vous avez ici à gauche le bâton des classes où on fait le moins d'écriture, 1h15 par semaine. Et à l'extrême droite, le bâton des classes où on fait le plus d'écriture, 3h33 par semaine. Ça varie donc du simple au triple, hein, mais on voit bien que ces variations, elles sont plus ou moins grandes, mais elles existent, hein, quelles que soient les tâches.
Alors, on arrive maintenant à une autre étape de notre exposé. Deuxième constat et bilan. Est-ce que les progrès, la première question que nous étions posée au début de notre recherche et qui correspondait à l'une de nos hypothèses était la suivante. L'efficacité en lecture-écriture dépend-elle du temps qu'on passe en écriture? Et comme dans le groupe compréhension, la réponse est non. À caractéristiques des élèves et niveaux initiaux comparables, et à caractéristiques des classes et des enseignants constantes, les tests statistiques n'ont pas permis de détecter d'effet global de la durée totale du temps consacré à l'écriture. Ce n'est donc pas le temps dans l'absolu qu'on y passe, toute tâche d'écriture confondue, qui explique les différences dans les progrès des élèves, mais sans doute d'autres choses.
Donc on va passer en revue les tâches auxquelles les élèves passent le plus de temps. Donc on va s'intéresser tout d'abord à la copie. Donc c'est toujours la même présentation, hein, les classes en décil, je n'insiste pas. Donc à gauche, vous avez le graphie de la copie avec modèle, et à droite, celui de la copie après disparition du modèle. Donc comme on le voit dans le graphique de droite, la copie après disparition du modèle est très peu pratiquée, et par la moitié des classes seulement. C'est une tâche qui est très peu proposée aux élèves. Et c'est donc plutôt la copie, la copie est pratiquée finalement massivement avec le modèle sous les yeux, que ce soit dans le cahier ou au tableau, par exemple quand les élèves copient les devoirs. Donc les classes qui en font le moins y passent en moyenne 14 minutes, celles qui en font le plus, environ 90 minutes, soit 6 fois plus. Alors, les tâches de calligraphie ne sont pas représentées ici. Elles sont présentes dans les classes, mais le temps qui leur est consacré est moindre, 16 minutes hebdomadaires. Et plus on avance dans l'année, moins les élèves y passent de temps. Alors, on va commencer avec ce tableau à analyser les effets du temps passé par la tâche de copie, mais on aura après la dictée et la production d'écrit, sur les scores des élèves, sur les sous-scores des élèves. Hein. Donc ici, il faut le copie en haut, c'est les tâches de copie, hein, qui ont un effet, et sur les groupes d'élèves dont on vous a déjà parlé ce matin, hein, on a réparti les élèves en fonction des performances initiales en écriture. Donc, la copie a un effet négatif pour les plus faibles sur la copie, pour les plus faibles des faibles, à peu près 12% de la population. Autre effet qu'on a détecté, un effet négatif de la copie pour les plus forts des élèves forts. Donc, tout se passe comme si le temps passé à copier limitait les enfants les plus avancés qui pourraient s'engager dans des activités de production de texte. Je crois que c'est Céline qui a parlé de renoncement ce matin. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et puis, l'autre résultat, c'est que malgré le temps important qu'on fait passer à la copie, ça ne profite pas aux élèves les plus faibles, hein, qui n'arrivent pas à restituer, à copier correctement ce qu'on leur a proposé. On s'intéresse maintenant au temps passé en production d'écrit. Alors la production d'écrit, c'est ce que Jérôme a appelé l'encodage autonome ce matin. Donc à gauche, le graphique de la production d'écrit, crayon en main en quelque sorte. Hein. Je n'ai pas encore vérifié si les tablettes étaient très utilisées, mais a priori non. À droite, celui de la production d'écrit en combinant des unités pré-imprimées. Donc les élèves passent en moyenne 25 minutes par semaine à encoder, hein, lorsqu'ils choisissent tous les mots de la phrase qu'ils écrivent, par exemple quand ils écrivent dans leur cahier d'écrivain. Et ici encore, on a beaucoup de différences, hein, du dixième des classes qui y passent le moins de temps, 3 minutes, au dixième des classes qui y passent le plus de temps, 53 minutes. L'écriture à partir d'étiquettes imprimées est également pratiquée à raison de 12 minutes en moyenne, mais on voit bien que... Alors, c'est une tâche qui est présente, mais qui est moins présente, hein, que l'autre. Il y a 20% des classes qui n'en font pas du tout, et puis 10% qui passent pas mal de temps. Alors, si on observe les effets de la production en encodant soi-même, produire un écrit correspond à la production, les trois tâches de production, y compris la dictée à l'adulte et produire en encodant soi-même, dictée à l'adulte et écrire avec des étiquettes, plus les tâches de planification et de révision. Donc c'est l'ensemble production d'écrit qui a un effet positif sur la dictée, sur les résultats en dictée pour les élèves les plus faibles initialement en écriture en septembre. La production d'écrit a un effet négatif sur la copie pour les élèves intermédiaires et elle a aussi un effet négatif sur la copie pour les élèves les plus forts. Donc copier... Donc j'en arrive à la dictée, un graphique que vous avez déjà vu ce matin. Alors qu'est-ce qu'on s'entende sur le mot dictée? La dictée, c'est un sous-ensemble des tâches d'encodage qui vous ont été présentées ce matin. C'est la plupart du temps ce que l'enseignant appelle dictée. Et le plus souvent, c'est des dictées de mots, de la dictée de mots. Donc c'est souvent une activité qui se fait sur ardoise ou sur le cahier. Les élèves passent moins de temps à l'activité de dictée qu'à celle de production d'écrit, 22 minutes en moyenne. Et on voit ici encore, je ne vais pas vous le refaire, que les pratiques sont très variables, puisque ça va de 3 minutes à 54 minutes.
Alors si nous revenons au tableau précédent, on vous l'a montré plusieurs fois en trois étapes, on peut dire que pour la dictée, c'est la colonne de droite, écrire sous la dictée. Pour les groupes des élèves faibles et intermédiaires, plus ils passent du temps à l'activité de dictée, meilleurs ils sont en dictée à la fin de l'année. Pour les plus faibles et les plus forts, plus ils passent du temps à l'activité de dictée et meilleurs ils sont en production de texte en fin d'année. Si on lit maintenant le tableau par ligne, pour les très faibles, vous avez retenu des exposés de ce matin qui avaient 12% des élèves considérés comme très faibles. Donc pour les très faibles, tout est bénéfique sauf la copie. Plus on travaille la dictée, plus ça les aide à mieux encoder, je ne reviendrai pas sur les définitions qui ont été données ici, et à mieux produire des textes. Sauf la copie qui apparaît dans ce tableau, comme vous le voyez, contre-productive. C'était la première ligne. Pour les élèves intermédiaires, seconde ligne, la dictée est bénéfique. La production d'écrit a un effet négatif sur le score de copie. Pour les élèves forts, copier beaucoup a un effet négatif sur le score de production de texte. La production de texte a un effet négatif sur le score de copie et la dictée est bénéfique sur la production de texte. Alors, Catherine va préciser un petit peu ce qu'on peut regrouper derrière ces activités de dictée.
Donc, l'actualité, qui porte un joli nom, nous a invité à regarder de près ce que veut dire faire de la dictée en CP. Alors, on l'a fait pour quelques classes parmi celles qui sont les plus performantes, qui font le plus progresser leurs élèves en écriture. Premier point, c'est une activité qui soulève l'enthousiasme des élèves. C'est une activité que les élèves aiment pratiquer et qui ne leur donne apparemment pas mal au ventre. C'est un moment où les élèves ne peuvent pas se reposer sur les autres. Donc c'est un moment où les élèves sont mobilisés individuellement et intellectuellement, où ils ne peuvent pas se reposer sur les autres, et où l'enseignant est attentif aux réponses individuelles. Autre caractéristique, dans les films qu'on a regardés, il y a toujours cette attitude bienveillante de l'enseignant qui aide les élèves, qui explique l'objectif de la dictée, c'est pour voir où vous en êtes, qui n'hésite pas à reconnaître la difficulté, ça on le verra plus tard, et qui encourage toujours ses élèves. Hein. Bravo, on l'entend très souvent. Autre caractéristique, c'est une occasion de questionnement, d'explicitation. Bref, la dictée dans les classes hein, qu'on a regardées, c'est un moment d'apprentissage où les élèves sont sollicités dans de bonnes conditions pour mobiliser les connaissances acquises. D'ailleurs, on pourrait dire que d'une certaine façon, ces pratiques qu'on a observées en CP, elles pourraient servir de modèle pour la suite, hein, pour le cycle 3. Alors, dernier tableau, on s'intéresse maintenant au score global en écriture. Hein, on n'est plus sur les trois sous-scores, on est sur le score global. On a toujours la partition des élèves, hein, élèves faibles et intermédiaires forts, et c'est toujours en fonction du niveau initial en écriture. Donc, on s'intéresse premièrement aux effets maintenant des tâches. Hein, vous voyez, on resserre un petit peu le champ. On observe très clairement un effet négatif, hein, global, de l'écriture avec des unités linguistiques pré-imprimées. Plus on y passe de temps, hein, et moins le score global en écriture est bon. C'est vrai pour toutes les catégories d'élèves. Ensuite, écrire en choisissant soi-même, donc c'est la tâche hein, d'encodage dont on vous a parlé tout à l'heure et ce matin. Passer du temps à écrire en encodant soi-même, en choisissant soi-même, est bénéfique, surtout pour le groupe des élèves les plus forts. La planification et la révision de l'écrit est bénéfique pour les plus faibles des élèves faibles. Et enfin, écrire, on retrouve l'écriture sous la dictée, hein, qui, et ce n'est pas étonnant compte tenu du tableau précédent, qui a un effet bénéfique sur le score global en écriture pour les élèves faibles et pour les élèves intermédiaires. D'où la nécessité de bien s'entendre hein, sur ce qu'est la dictée, et c'est une affaire un peu compliquée.
Alors, nous arrivons presque à la fin de cet exposé, et au dernier bilan, au constat, aux conclusions et aux perspectives. Alors, on peut, si on ramasse un peu tout ce qui a été dit et si on met cela en lien avec les exposés précédents, mais en focalisant particulièrement sur les tâches d'écriture, puisque notre exposé concernait uniquement des tâches d'écriture, la première conclusion est la suivante. Pour tous les élèves, l'écriture à partir d'unités pré-imprimées est contre-productive. Donc, ces effets de type contre-productif sont sans doute effectivement à analyser, plus précisément, plus finement. Pour les élèves les plus forts, écrire en choisissant soi-même les unités, pour les élèves les plus forts, écrire en choisissant soi-même les unités a un effet positif sur le score en écriture. Pour les plus faibles, pour les élèves les plus faibles, le travail de planification et de révision de leur écrit améliore leur score global en écriture. Premier ensemble de conclusions qui va nous permettre de poursuivre nos travaux. Second ensemble de conclusions, il faut que nous nous questionnions sur la présence et sur l'absence de certaines tâches. Par exemple, la copie, vous avez vu qu'elle n'était pas majeure, la dictée, qui nous semble très importante en durée et en effet, et la production de texte aussi, dont nous pressentons sans les préciser des effets. La calligraphie aussi et la dictée à l'adulte. Donc, nous avons à travailler sur, effectivement, à comprendre, à interpréter nos résultats sur cette dichotomie présence-absence de certaines tâches. Autre question que nous nous posons, c'est l'exploration, et que nous souhaiterions poursuivre, c'est l'exploration des effets de seuil et des effets plafonds. Jérôme Rioux vous en a parlé ce matin, c'est-à-dire que vous avez, sur certaines tâches, on constate, mais il faut évidemment retourner, confronter, chercher des explications, on constate qu'il y a des effets de seuil. C'est-à-dire que, au-delà d'une certaine durée, 30 minutes, 20 minutes, etc., par semaine, eh bien, ça ne produit plus, en l'état actuel de nos connaissances, des progrès.
et des effets plafonds, c'est-à-dire que en dessous d'une certaine durée, les progrès aussi ne sont plus constatés chez les élèves. Alors, il nous reste à nous questionner sur les effets négatifs de certaines tâches, la contre-productivité de la copie, pourquoi ? Retourner sans doute à d'autres explications, cerner de plus près les pratiques pédagogiques, et bien entendu, aussi, effets négatifs de certaines tâches, la production d'écrits avec des unités pré-imprimées. Pourquoi se fait-il que, effectivement, cela provoque des effets négatifs ? Alors, la dictée, Catherine vous en a parlé, qui quand même a un effet très important, et sans doute, et cela est à creuser, peut-être dans certaines conditions de pratique pédagogique, un réel exercice d'apprentissage. Et pour cela, il faut que nous retournions dans les vidéos que nous avions mentionnées ce matin pour préciser ce qu'est, comment se font dans les classes les plus et moins performantes cet exercice de dictée. Et faisons attention à nos représentations, parce que nous savons que nous avons tous des représentations stéréotypées dans notre inconscient collectif concernant l'exercice de dictée. Je renvoie d'ailleurs à un numéro de Glotopol qui a été coordonné par Catherine Brissot et qui vient de paraître. Et voilà. Alors, la production d'écrits, cela est effectivement à mieux connaître, mieux préciser, mieux comprendre, et aussi le fait que la planification et la révision associés à des tâches de production d'écrits sont bénéfiques pour les élèves les plus faibles. Or, nous avons constaté en durée très peu de tâches de planification-révision. Mais les effets sont très importants associés à la production d'écrits sur les progrès des élèves les plus faibles. Alors, quelques mots maintenant pour conclure des travaux en cours. Alors, il y a sans doute d'autres aspects pédagogiques à traiter. Sylvie Seb et Marie-France Bishop vous en ont parlé ce matin. Beaucoup d'autres personnes ont indiqué qu'il fallait aller et continuer nos travaux et notamment regarder effectivement de façon plus précise à la lumière de nos premières connaissances les vidéos. L'exposé qui suit va vous entraîner les deux exposés qui vont suivre vers cette perspective-là. Donc il faut analyser des vidéos de façon en les ramenant à nos données macro, notamment une des perspectives, c'est à propos des gestes professionnels des enseignants, comment s'effectuent par exemple dans la production d'écrits ces gestes de tissage. Je vous renvoie aux travaux qui ont été faits là-dessus. Et peut-être Catherine va nous donner quelques prolongements.
Et deux mots parmi les prolongements possibles, un prolongement bien réel, bien concret, qui commence avec une allocation doctorale. D'ailleurs, la doctorante est dans la salle. Donc, un projet de constitution d'un corpus longitudinal de textes scolaires qui repose sur le premier recueil de données de cette recherche. Donc, on va proposer aux écoles qui ont participé à la recherche et au recueil en CP et en CE1 de continuer le recueil l'année prochaine en CE2. L'objectif étant de créer une base de données qui sera interrogeable et qui devrait permettre de rendre compte des dynamiques de production de textes à l'école élémentaire. Donc on va entrer en contact avec les écoles pour leur proposer de participer aussi aux équipes enseignantes, de participer à la construction de cet outil qui permettra d'interroger la banque de textes. Voilà, donc il y a encore du travail. Merci.